Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous apprenant bienvenue, en vous rappelant bienvenue aussi que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images, 35 mm, moins, plus parfois, qui bougent sur les grands écrans, sur les petits aussi, depuis maintenant bien longtemps. Ce jour, dans 24 notes secondes, nous allons évoquer la carrière d'un musicien de génie qui fut aussi un compositeur de musique de film de génie, Eric Wolfgang Korngold, un nom qui dira peut-être plus, et c'est assez rare en matière de musique de film, qui dira peut-être plus aux amateurs de musique dite classique qu'aux amateurs de musique de film eux-mêmes, puisque... Et je le répète, c'est assez rare. Il fut, avant de devenir l'un des grands compositeurs de ce qu'on a appelé l'âge d'or de la musique de film américaine des années 30 ou 40, il fut, et il est resté aussi en parallèle à sa carrière filmique, un très très grand compositeur. Il faut dire que Eric Wolfgang Korngold, né à Brno, en Autriche-Hongrie, et oui, ça s'appelait comme ça à l'époque, le 29 mai 1897, avait de qui tenir, puisqu'il était le fils d'un éminent critique musicale en l'espèce, Julius Korngold, qui ne craint pas donc de présenter, de nommer son fils Eric Wolfgang en hommage à qui vous savez. La famille s'installe à Vienne au début du XXe siècle, en 1901 exactement, et Eric Wolfgang, appelons-le comme ça, est dès l'abord un enfant prodige, pourvu de dons stupéfiants, dit ma petite fiche, qui, je vous le rappelle, ne se trompe jamais, puisque à 5 ans, il joue à 4 mains avec son père, reçoit ses premières leçons d'harmonie, à 7 compose des valses de petites mélodies, et dès 1906, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans, il est présenté à Gustav Mahler lui-même, qui s'écrit « un génie ». Je suppose que Gustav Mahler le fait en allemand, mais bon, on va s'abstenir. À l'âge de 12 ans, il compose un trio avec piano, un ballet, etc., etc. Bref, Eric Wolfgang Korngold est bien ce qu'on appelle un enfant prodige et un compositeur aussi prodige, pas seulement musicien lui-même, mais un compositeur, à tel point que son grand maître, le professeur Zemlinsky, décide au bout de 18 mois qu'il n'a plus rien à apprendre, ou en tout cas plus grand-chose à apprendre à son élève, qui commence, après une première guerre mondiale de laquelle il s'abstient en raison de sa santé fragile, une très très brillante carrière de compositeur tout court, de laquelle, pour ne pas être trop long, nous retiendrons en 1920 un opéra qui reste encore un très très grand classique du genre, dit Tote Stadt, en l'espèce La Ville Morte, donc de Korngold, adapté d'un roman de Rodenbach intitulé Bruges la Morte. Ensuite, eh bien, sa carrière de musicien classique se poursuit. Mais alors, qu'en est-il du cinéma, me direz-vous ? Je vous propose d'y venir après avoir écouté un premier extrait qui va nous faire évidemment bondir quelque peu dans le temps. Après avoir écouté un premier extrait d'une bande originale, en l'espèce celle de Captain Blood, un film de Michael Curtis tourné en 1935 avec l'un des couples vedettes de l'époque, Errol Flynn et Olivia de Havilland, dans les rôles principaux, quelques méchants aussi, on y revient, mais on écoute d'abord un extrait de cette bande originale, Eric Wolfgang Korngold sur Divergence FM.
Thank you.
Voilà, un premier extrait d'une première bande originale signée d'Eric Van Kongold. À vrai dire, c'est presque sa première bande originale, celle d'un film de Michael Curtis, tourné quelque part entre 1935 et 1936. Ça s'appelait Captain Blood. Nous revenons sur Michael Curtis, sur Errol Flynn, sur Olivia de Havilland. Mais je vous ai dit que nous avions laissé Eric Wolfgang Kongold eh bien, à l'aube d'une carrière déjà, au début même, d'une carrière déjà prestigieuse, puisque je continuais studio à lire ma petite fiche pendant que vous écoutiez cet extrait, et je peux citer par exemple le jugement que portait sur lui le grand compositeur lui-même Puccini, déclarant à propos de Kongold, qui avait une petite vingtaine d'années à l'époque, je vous le rappelle, il a tellement de talent qu'il pourrait facilement nous en donner la moitié et il lui en resterait encore assez. Bref, les dieux musicaux s'étaient penchés sur le berceau du petit Eric, mais par contre, pour ce qui était de la situation politique, il en allait différemment. Et en 1929, eh bien, il fait une rencontre décisive, celle du célèbre metteur en scène Max Reinhardt. Décisive d'abord parce que à Berlin, ces deux-là collaboreront avec succès, notamment sur La Chauve-souris de Strauss, si je me souviens bien. Mais surtout, c'est Max Reinhardt qui donne le signal du départ pour les États-Unis, puisque la sonorité de son nom le laisse entendre. Kongold n'était sans doute pas déjà très bienvenu dans une Allemagne qui allait sombrer très rapidement dans l'ignominie nazie. Dès 1934, Max Reinhardt part aux États-Unis où il va diriger un film très très peu connu, ou plutôt il va contribuer à un film très très peu connu qui s'appelle Le Songe d'une nuit d'été, d'après Shakespeare bien sûr, signé de William Dieterle, mais un film important puisqu'il réunissait nombre de collaborateurs prestigieux, donc Dieterle lui-même exilé, Max Reinhardt et Eric Van Gogh Kongold, qui pour la première fois donc en 1934 fait un premier séjour aux États-Unis. Pendant un an, deux ans, eh bien, il va faire quelques allers-retours. Mais nous sommes à une époque, je l'ai dit, bien troublée. Et dès 1936, il s'installe à Hollywood avec sa femme et ses fils, juste avant l'Anschluss, c'est-à-dire le rattachement de l'Autriche à l'Allemagne. Et je dirais, non pas le début des affaires sérieuses. Hélas, elles avaient commencé quelques années auparavant. Mais en tout cas, la confortation pour tous ces exilés américains, que sans doute c'était une bonne idée d'avoir quitté l'Allemagne avant de ne plus pouvoir la quitter. Et c'est dès cette époque que Eric Van Gogh Kongold, qui donc bénéficie d'une prestigieuse célébrité en tant que musicien classique, s'intéresse à la musique de film. On ne sait trop si c'est pour mettre un peu de beurre dans les épinards ou si c'est par goût. En tout cas, il ne va rien renier ni de son art musical, ni de son exigence musicale pour les films dont il va faire la musique. C'est le cas de la partition de Captain Blood. On va écouter un deuxième extrait et on parlera donc d'Errol Flynn ensuite, celle d'un film toujours signé par Michael Curtis, avec toujours dans les rôles principaux Errol Flynn et Olivia de Havilland. Il faut dire que ces deux-là, je l'ai déjà dit, eurent quelques années d'or ensemble. Cette fois, eh bien, ce n'était plus Captain Blood, l'histoire d'un pirate au grand cœur, mais tout simplement celle de Robin des Bois, héros, là encore, voleur au grand cœur bien connu. Ça s'appelait Les Aventures de Robin des Bois, c'était de 1938, ça l'est toujours à vrai dire, et la musique elle est toujours d'Eric Wolfgang Kongold dans 24 notes secondes. Voilà, j'ai choisi exprès autre chose que le générique pour vous donner une idée de l'art musical d'Eric von Korngold, c'est tellement difficile à dire, appliqué en espèce à la musique des aventures de Robin des Bois, The Adventure of Robin Hood, of course, un film de 1938, un film de Michael Curtis pour illustrer donc notre héros du jour, le dit Korngold, qui, fort auréolé de sa grande célébrité et de ses grands succès, notamment à l'opéra, eh bien, parvint à négocier avec la firme Warner Bros, la firme Warner Bros avec laquelle il fut en contrat pour quasiment l'ensemble de ses musiques de films, un contrat fort avantageux, surtout pour les compositeurs de musique de films hollywoodiens des années 30-40, puisqu'il avait le droit de choisir 3 films tous les 2 ans, je suppose que ça veut dire 3 films en 2 ans, ce qui était fort peu à une époque où les compositeurs étaient plutôt des staccanovistes de la pellicule, enchaînant film sur film, et surtout, il pouvait garder aussi tous ses droits sur les partitions. De fait, dans les 12 années que durera sa collaboration avec l'univers filmique, eh bien, il ne signera la musique que de 18 films, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est fort peu dans le genre et dans l'époque. Et pendant ces 12 années, eh bien, il sera honoré aux Oscars pour 2 partitions, celle d'un film dont nous n'écouterons pas la musique, Anthony Adverse, et celle d'un film dont nous venons d'écouter la musique, en l'espèce Les Aventures de Robin des Bois. Les Aventures de Robin des Bois qui était une nouvelle occasion de succès pour un homme né en 1909, quelque part en Tasmanie, Errol Flynn, apparemment c'était son vrai nom. Errol Flynn qui, avant de débuter au cinéma en 1933, eut une vie des plus aventureuses, puisque sa mère était la fille d'un capitaine de navire et que tout jeune, eh bien, le jeune Errol, lui aussi attiré par le monde de la mer et de la navigation, eh bien, passe une partie de sa jeunesse sur les mers, justement, parvenant même en 1930 à acheter un petit bateau avec lequel, une goélette, ça s'appelle, avec lequel il fait du cabotage, sans doute, pour gagner sa vie. Son premier rôle au cinéma, eh bien, il l'a en 1938. C'est une adaptation australienne, en l'espèce de la célèbre histoire des révoltés du Bounty, dans lequel il joue le rôle du gentil, en l'espèce Fletcher Christian, rôle qui sera repris 2 ans ou 3 ans plus tard, je ne sais plus exactement, par Clark Gable dans la version américaine et MGM de la chose, réalisée par Frank Lloyd. Pour autant, eh bien, ce n'est pas à cette occasion qu'il rencontre son succès, mais par contre, le succès, il l'obtient 2 années plus tard avec le Captain Blood de Michael Curtis, dont nous venons, nous avons écouté un premier extrait qui va d'une certaine manière être l'archétype de ses films d'aventure, comme il en tournera tant dans les années 30. Alors, évidemment, avec un héros au grand cœur, mais tourmenté et avec un passé parfois difficile. Et puis, bien sûr, une jeune femme charmante, au départ farouche et ensuite tout acquise à la cause de son héros de cœur. En l'espèce, vous l'avez compris, Olivia de Havilland, avec des méchants, plein de méchants, notamment dans Captain Blood, les délicieux, si je puis dire, pas des méchants, Lionel Atwill et Basil Rathbone, et dans Les Aventures de Robin des Bois, le prince Jean, il est méchant, le prince Jean, interprété par Claude Rains et le même sublime Basil Rathbone. Captain Blood est un très très grand succès, Les Aventures de Robin des Bois, un plus grand succès encore, et Errol Flynn et Michael Curtis se tourneront à plusieurs reprises, on se souvient ou pas, et il le faudrait, de La Charge de la Brigade Légère en 1936, des Conquérants en 1939, de La Vie Privée d'Élisabeth d'Angleterre, Elizabeth and Essex en 1939 avec Bette Davis. Et puis, nous allons écouter un petit extrait de la chose en 1940, certainement l'un des films de pirates par excellence. C'était de Michael Curtis aussi, ça s'appelait L'Aigle des Mers, The Sea Hawk. J'ai une photo des rôles sous les yeux et ma foi, c'est le héros type des années 40. De la même manière, la musique du film signé Carl Gold, c'est la musique hollywoodienne type des films d'aventure. Alors, embarqué quelque part vers 1585, hardi capitaine dans 24 notes secondes. Et bien voilà, la quintessence de la musique hollywoodienne, un extrait de la bande originale de L'Aigle des Mers, un film de Michael Curtis tourné en 1940, qui est considéré lui-même comme la quintessence du film d'aventure maritime, du film de pirate, ou en tout cas, s'il n'était pas pirate, c'était selon l'une des nombreuses collaborations entre Michael Curtis, lui-même émigré hongrois, on l'évoquait à propos de Korngold, notre héros de ce jour, lui-même émigré hongrois, puisque ces deux-là collaborèrent sur 11 films en vedette, c'est-à-dire 11 films de Michael Curtis mettant en vedette Errol Flynn, donc, dont j'ai très rapidement, tiens, pourquoi pas une émission sur lui, résumé la carrière, mais une carrière qui fut sous-tendue, certes par son goût de la mer, mais par son goût d'autre chose que de l'eau, puisque Errol Flynn fut assez rapidement, dès les débuts même de sa carrière, assez réputé sur les plateaux pour être quasiment alcoolique, ce qui, d'une certaine manière, et assez curieusement, n'empêcha pas qu'il eut une dizaine d'années d'or, mais qui ensuite, eh bien, contribua très rapidement à détériorer à la fois son physique, qui devint relativement bouffi, il faut bien le dire, et aussi sa popularité auprès du public, ce qui fait qu'il eut une fin de carrière assez misérable. Sic gloria transit mundi, comme on dit dans les salons. Pour ce qui est de Korngold, eh bien, d'une certaine manière, il en fut un peu de même, et je m'en veux de conclure ou presque cette émission sur cette note un petit peu sombre, puisque après avoir été donc dans les années 40, une douzaine d'années, je l'ai dit, certainement l'un des compositeurs les plus reconnus, tout à la fois à Hollywood, puisque son nom et ses partitions furent associées à de grands succès commerciaux, la seule chose qui compte à Hollywood, mais aussi parce que après avoir été pendant les années 20 un jeune compositeur prodige, avoir vu son opéra La Ville Morte jouer dans plus de 80 théâtres avant même la fin des années 30, eh bien, et Erik von Korngold se décida en 1947, à l'âge de 50 ans, à retourner en Europe, à retourner tout simplement à Vienne, dans sa terre natale. Alors, peut-être était-ce l'exil, peut-être était-ce le fait d'avoir été contaminé par la musique de film, mais en tout cas, il ne retrouva plus, mais alors plus du tout, les grands succès qu'il avait eus sur la scène lyrique et même sur la scène classique dans les années 30. Et il mourut après un retour à Hollywood le 29 novembre 1957, sans doute, mais là, qui suis-je pour en juger, sans doute bien amer d'une carrière commencée sur des auspices absolument formidables et terminée d'une manière peut-être un peu plus en demi-teinte. On en retiendra quant à nous que Korngold fut en tout cas un modèle pour les grands compositeurs, notamment américains des années 70, John Williams, Jerry Goldsmith ou le moins connu Patrick Doyle lui doivent beaucoup. Et puis on va évidemment se quitter en musique en écoutant un extrait d'un film qui ne mettait pas en vedette Errol Flynn pour une fois. Un film de William Dieterle, déjà cité, avec dans les rôles principaux Paul Muni, un acteur bien oublié hélas, et Bette Davis, déjà évoqué tout à l'heure. Ça s'appelait Juarez et c'était en fait une évocation historique quelque part dans la deuxième moitié du 19e siècle au Mexique. Je ne vais pas entrer dans les détails de la chose pour vous laisser profiter au mieux de la musique d'Eric Wolfgang Korngold, auquel nous consacrions ce jour un bien modeste hommage dans 24 notes secondes. Voilà, ça craque un peu. 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you. Bye bye.